Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Nous sommes le 21 juin, c'est l'été et nous abordons tranquillement la redescente vers la fin de saison. Et oui, plus que deux émissions déjà avant la pause estivale. Le temps des journées à la plage, des balades en garrigue et des pique-niques à la rivière. À cette occasion, peut-être vous poserez-vous la question de l'intérêt d'acheter cette petite bouteille d'eau en plastique recyclable dans une belle, quand une belle gourde en alu aurait fait l'affaire. Peut-être vous laisserez-vous tenter par une piémontaise au rayon traiteur de votre supermarché et dans ce cas, peut-être demanderez-vous au vendeur ou à la vendeuse si cet emballage est en plastique conventionnel ou biosourcé. À moins que vous ne préfériez une piémontaise maison et dans ce cas, c'est probablement dans un sac en amidon de maïs compostable que vous transporterez tomates et pommes de terre. Et si lors du pique-nique, un coup de vent intempestif emporte avec lui cette merveille de technologie, vous pourrez toujours vous consoler en vous disant que ce sac a été conçu pour se désintégrer tout seul dans la nature. Ah, le bonheur de la conscience propre et tranquille. Sauf que l'étude dont nous allons vous parler aujourd'hui risque de biodégrader légèrement cette bonne conscience puisqu'elle interroge la place des plastiques biosourcés et souligne la difficulté de prouver leur biodégradabilité en dehors de conditions de laboratoire, parfois très éloignées des conditions réelles dans lesquelles ces plastiques finiront. Notre invitée est enseignante-chercheuse à l'Université de Montpellier et chercheuse au laboratoire IAT pour ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Je vous la refais, IAT pour ingénierie des agropolymères et technologies émergentes. Emmanuel Gaston. Stéphanie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Avec moi pour mener cette interview, comme chaque semaine, Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour. En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à la plateforme RMN du laboratoire Mesures Physiques sur le pôle Chimie Ballard. Enfin, notre invité des trois dernières minutes nous vient de la direction de la com de l'université, autrement dit de la maison. Et c'est Kelly Beria qui viendra nous parler des trophées de l'innovation de l'UM qui seront remis la semaine prochaine. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55.
Alors pour commencer, Emmanuel Gastaldi, dans le lancement, on a déjà entendu plusieurs mots. Plastique biosourcé, plastique biodégradable, compostable éventuellement, bioplastique. C'est quoi la différence entre tous ces mots-là et lesquels il faut utiliser ou ne pas utiliser ?
Très bien, merci pour cette question parce que je crois que c'est quelque chose d'important. Donc biosourcé, en fait, c'est en lien avec l'origine du carbone qui a permis de réaliser le matériau. Donc c'est vraiment c'est un carbone normalement qui vient des bioressources, de la biomasse. Voilà, vous pouvez avoir des matériaux biosourcés qui ne sont pas biodégradables ou biodégradables. Alors biodégradable, c'est quoi ? C'est un matériau qui va avoir la propriété de pouvoir être assimilé par les micro-organismes de l'environnement. Alors, généralement, c'est en fin de vie, hein, c'est plutôt intéressant quand c'est en fin de vie. Donc, ce carbone peut être biosourcé partiellement, complètement ou ne pas l'être. Ça veut dire dans ce cas-là qu'il est pétrosourcé. Mais il pourrait être assimilé quand même. Alors, un bioplastique, c'est quoi ? C'est un plastique qui est biosourcé et ou biodégradable. Et le problème vient évidemment de ce « et ou ». Puisque vous pouvez très bien avoir du polyéthylène biosourcé, réalisé à partir de canne à sucre, qui rentre dans cette catégorie de bioplastique, et de l'amidon de maïs aussi, qui rentre dans cette catégorie de plastique, et ils n'ont rien à voir. Ces deux types de matériaux n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
D'accord, et il y en a un qui sera certainement biodégradable et l'autre pas du tout.
Et c'est ça, tout à fait. Voilà. Et compostable, en fait, c'est simplement biodégradable dans des conditions de compostage, qui sont des conditions un petit peu particulières. Mais on y reviendra.
On y reviendra, exactement.
Alors, ces matériaux, justement, qui sont biosourcés et ou biodégradables, pourquoi ça a été nécessaire de les mettre au point ?
Alors, à la base, ces matériaux, l'intérêt de ces matériaux repose sur les avantages qu'on peut avoir en fin de vie. Puisque, vous savez, j'imagine, que le problème en fait des plastiques aujourd'hui, c'est qu'ils ont été conçus pour durer très longtemps et leur durée d'utilisation finalement est très très faible par rapport à leur durée de vie. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec une quantité de plastique en fait après utilisation qui s'accumule dans l'environnement et qu'on n'arrive plus à gérer. On en produit trop par rapport à ce qu'on est capable de les gérer. Voilà. Et les plastiques biodégradables, alors évidemment il y a différentes catégories, hein, mais l'avantage c'est qu'ils puissent justement terminer leur vie dans l'environnement. Et quelque part, de façon être bio-assimilé en fait par les micro-organismes de l'environnement.
Et est-ce qu'on a une idée de la proportion qu'ils représentent aujourd'hui sur l'immense marché du plastique, ces matériaux biosourcés ?
En fait, ces matériaux ont été créés. Alors, il y en a eu beaucoup avant, au début du XXe siècle, hein, avant l'essor du plastique. Après, on les a oubliés. Donc, il y avait des matériaux à base de caséine, à base de protéines de soie, par exemple. Beaucoup de protéines étaient utilisées pour faire des matériaux au début du XXe siècle. Et ils sont revenus dans les années 90. Aujourd'hui, ils représentent toujours autour de 1% des plastiques, pas plus.
D'accord. Alors, dans votre article, on va s'intéresser aux limites de ces plastiques biodégradables et biosourcés. Mais vous débutez néanmoins votre papier en détaillant les cas où l'utilisation de ces plastiques est justifiée justement en raison de leur fin de vie. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux, justement, de bonne utilisation de ces bioplastiques ?
Alors, ces plastiques biodégradables, on va surtout parler des biodégradables. Alors, biosourcés, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les biodégradables sont partiellement biosourcés. Et en fait, il suffit qu'un matériau soit partiellement biosourcé pour qu'il puisse être appelé, revendiqué biosourcé. Ce qui n'est pas le cas de la biodégradabilité, puisque la biodégradabilité, c'est une propriété qui doit être totale, complète. On ne peut pas se contenter de 10, 20, 30% de
oui,
biodégradables. Voilà.
Biodégradable.
Vous mélangez de l'amidon avec du polyéthylène, même à 60-40% par exemple, votre matériau final ne sera pas biodégradable. Il faut qu'il le soit totalement. Voilà. Alors, dans quel cas ça peut être intéressant ? Ça peut être intéressant quand la durée d'utilisation en fait est très courte, hein, quand les propriétés attendues pour le matériau sont compatibles avec les propriétés de ce type de matériaux, quand on ne peut pas les recycler, quand ces matériaux sont totalement indispensables, et on sait que dans certains cas d'emballage, en fait, il est indispensable d'avoir un emballage, voilà, parce que ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la présentation, mais l'emballage n'est pas qu'un vecteur de marketing, hein, ou
oui,
un support.
J'imagine que dans l'utilisation pharmaceutique, ce genre de choses.
Mais pas seulement, dans l'alimentaire aussi, hein, dans l'alimentaire aussi. Et puis, des applications où on aurait du mal à le collecter, où il va rester dans l'environnement, typiquement dans le domaine de l'agriculture, ou de la pêche, avec évidemment des limites à apporter à tout ça.
Et dans l'article, vous évoquez aussi une notion qu'on n'a pas précisée, il y a les plastiques biodégradables que vous opposez aux plastiques oxodégradables. Qu'est-ce que c'est ça, oxodégradable ?
Alors, les plastiques oxodégradables, c'est à la base des plastiques conventionnels, hein, de type polyoléphine, donc comme le polyéthylène, dans lequel on a rajouté des sels de métaux lourds et des substances en fait qui ont été parfaitement homogénéisées dans la matrice du matériau et qui vont être sensibles à l'oxygène, aux UV, qui vont être capables de subir une dégradation thermochimique, thermooxydative, et qui vont venir couper donc les chaînes de polymères. Alors, pour certaines, suffisamment petites pour qu'elles puissent être assimilées par les micro-organismes. Donc ça représente entre 10-20% du polymère va pouvoir être assimilé. Alors, bon, après, on ne sait pas la toxicité, hein, et le reste va rester en l'état, mais il va rester en l'état sous forme de petits fragments qui ne sont plus récupérables et qui peuvent causer beaucoup de dégâts puisqu'ils vont être facilement finalement lixiviés, drainés et puis ingérés. Vous avez bien vu que je n'ai pas dit assimilés, mais ingérés par les organismes.
Ce sont tous les microplastiques dont on dit qu'on les trouve maintenant partout dans l'environnement ?
Alors, les microplastiques, ils viennent d'une usure, d'une oxydation, d'une dégradation, et je n'ai pas dit biodégradation, dégradation uniquement, des plastiques qui sont dans l'environnement sous l'effet de facteurs environnementaux, notamment voilà, eau, lumière, UV, enfin UV, donc c'est pareil, mais et chaleur.
Alors, on va rester sur ces plastiques biodégradables, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils soient recyclables ou réutilisables, ces plastiques ?
Alors, ils n'ont pas été conçus pour ça, dès le départ. Ils n'ont pas été conçus pour ça. Mais on peut imaginer, alors je suis sûre que vous l'avez déjà fait, hein, on peut retrouver, notamment même au niveau du CROUS. Moi, j'enseigne à l'IUT et je sais qu'au CROUS de l'IUT de Montpellier, ils vendent en fait une fourchette cuillère qui s'appelle la Georgette et qui est en PLR, donc en acide polylactique, et qui peut être réutilisée plusieurs fois. Donc, c'est un matériau qui peut être biodégradé en compostage industriel et qui peut être réutilisé.
Alors justement, vous parlez du compostage industriel. Montpellier a un équipement assez particulier dont on a souvent parlé ici, l'usine Améthyste, qui est une usine de méthanisation. Est-ce que par exemple ce type de dispositif serait adapté pour dégrader dans de bonnes conditions ces matériaux-là ?
Alors, ce type de dispositif... Alors aujourd'hui, le gros problème des biosourcés, hein, qui finissent justement leur vie à l'usine d'Améthyste, mais pas seulement, puisque tous les déchets transitent d'abord par Améthyste, hein, c'est déjà les non désirables. Hein,
c'est poubelle grise et compost Améthyste.
Alors, Améthyste, voilà, il y a une partie méthanisation, et de toute façon, le digestat de méthanisation est ensuite composté. Et composté en conditions industrielles, c'est-à-dire thermophiles. Hein, voilà. Donc, de toute façon, ces matériaux, en fait, même s'ils restent dans le digestat de méthanisation, ils auraient une possibilité ensuite d'être biodégradés dans l'étape de compostage qui va avoir lieu après. Le problème, c'est aujourd'hui arriver à faire le tri entre les compostables et les non compostables. Et pour ce qui est des méthanisables, de toute façon aujourd'hui, il n'y a pas de norme sur le marché qui permet de revendiquer qu'un matériau est méthanisable ou pas méthanisable. Mais vous avez beaucoup d'études qui sont actuellement en cours autour de cette thématique, donc je pense que vous serez amené à en reparler.
On vous réinvitera.
Alors justement, en parlant d'emballage, si on imagine une barquette alimentaire qui est biodégradable, elle a quand même une fonction qui est de protéger l'aliment pendant la durée dans laquelle on l'utilise. Comment on fait pour s'assurer qu'elle ne se dégrade pas pendant son temps d'usage en tant que barquette avant d'être jetée pour le compostage ?
Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle, pour l'application d'emballage alimentaire, où on a justement ce contact, parce que, bon, ça n'y paraît pas, mais pour qu'un matériau soit compatible, enfin, puisse jouer le rôle d'un emballage alimentaire, il faut, au-delà des propriétés mécaniques, des propriétés barrières qu'il doit posséder, il doit aussi avoir une inertie vis-à-vis de l'eau. Voilà, il ne s'agit pas qu'il se dissolve ou qu'il se solubilise au contact de l'aliment. Et Dieu sait si une très grosse partie des aliments sont aqueux. Hein, ou alors, qui également ne soit pas biodégradé par la flore de certains fromages, puisque vous avez beaucoup d'aliments qui ont une propre charge microbienne. Des charcuteries, et c'est la raison pour laquelle, pour l'emballage alimentaire, c'est plus intéressant d'avoir des matériaux en fait compostables qui ne vont se dégrader que dans des conditions un petit peu plus... soient différentes des conditions de stockage aliments, c'est-à-dire qu'ils ne se biodégradent pas dans votre placard. Voilà. Après, pour ce qui est du fromage, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir même du papier au contact du fromage qui se dégrade un petit peu. Le papier est un emballage compostable, enfin un emballage biodégradable par nature, et c'est vrai qu'il a du mal à cohabiter avec les micro-organismes. Ce qu'on lui demande, en fait, c'est d'être biodégradé en présence de micro-organismes. Et c'est ce qui va aussi se passer au contact d'un produit qui contient des micro-organismes et de l'eau.
Alors, vous affirmez que c'est dans cet article, donc vous dites que les plastiques désignés comme biodégradables ont des preuves controversées justement de biodégradabilité dans l'environnement naturel. Comment vous faites pour l'évaluer, cette biodégradabilité ? C'est dur à dire. Hein. On a des conditions particulières de laboratoire, on essaye de recomposer au maximum l'environnement extérieur. Comment on fait ?
Alors, en fait, la biodégradabilité des matériaux, elle est un petit peu classée par catégorie et par milieu. Vous pouvez quelque part classer les différents environnements sur une échelle d'agressivité croissante. Donc vous allez avoir l'eau de mer ou même la décharge. Hein, la décharge, peu de choses se biodégradent dans une décharge, puisque en plus il n'y a pas beaucoup d'oxygène et l'oxygène est vraiment indispensable pour avoir. Il n'est pas indispensable pour qu'un matériau se biodégrade, puisque en méthanisation il n'y a pas d'oxygène et ça se biodégrade. Mais c'est des micro-organismes particuliers et c'est moins rapide, voilà. Donc, vous allez avoir le milieu marin, où là, en plus, avec le sel, le fait que ce soit un milieu très dilué, une force ionique importante, ça va se dégrader très lentement. Et vous allez passer par le sol, où c'est déjà un petit peu plus facile, puis le compost domestique, et enfin, le compost industriel, où on peut monter à des températures très élevées. Ça, c'est lié justement à l'inertie, aux réactions microbiennes qui vont faire qu'on peut se retrouver jusqu'à 85 degrés dans un compost industriel où là, tout est accéléré et tout est possible. Et il faut imaginer que ce n'est pas uniquement la chaleur qui va dégrader les matériaux, mais c'est les micro-organismes qui sont adaptés à ce milieu et qui vivent dans ce compost. Voilà, vous avez des micro-organismes qui arrivent encore à vivre à 85 degrés et qui vont dégrader la matière de façon très efficace.
C'est ce que vous testez justement dans le cadre d'une chaire, j'en parle très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps, vous testez ça dans le cadre d'une chaire de mécénat, c'est ça?
Oui, chaire de mécénat COPAC, voilà, une grande expérimentation à grande échelle qu'on a lancée autour de Montpellier sur la plateforme d'Aspirant, qui est située à côté de Gignac, voilà, dans l'Hérault.
Alors, dans cet article, vous parlez aussi des normes qui garantissent la biodégradabilité et l'absence de toxicité dans le milieu environnant, en disant que ça représente un effort remarquable qui n'a jamais été fait pour les plastiques conventionnels. Est-ce que ça veut dire qu'on teste davantage la toxicité de ces plastiques biosourcés que des plastiques qui sont pétrosourcés, fabriqués à base de pétrole ?
Tout à fait. Alors, normalement, pour pouvoir être mis sur le marché, ces matériaux doivent revendiquer En fait, ils doivent remplir un certain nombre de conditions. Ça veut dire qu'ils doivent être certifiés. Donc ça se traduit par un numéro qui est généralement inscrit sur le matériau ou un logo, enfin ça peut revêtir différentes formes. Et ces certifications, en fait, ça suppose en fait que le matériau doit remplir un certain nombre de critères qui sont des critères de composition, des critères de toxicité, d'écotoxicité, des critères de biodégradation, de désintégration. Et il suffit en fait que le matériau ne remplisse pas un seul de ces critères pour qu'il ne puisse pas être reconnu, qu'il ne soit pas certifié. Alors, la grosse question est en fait de pouvoir identifier les matériaux les uns par rapport aux autres. En fait, que ça puisse sauter aux yeux du consommateur, que le consommateur n'ait pas à sortir ses lunettes, hein, puisqu'il y a un moment où il faut avoir des lunettes pour pouvoir lire ce genre de choses écrites très petit. Je suis dedans, donc je sais bien. Il faudrait que ça puisse être vu très rapidement, donc sous forme d'une couleur, d'un quadrillage, ou comme c'est fait par exemple en Suisse, les matériaux compostables sont quadrillés.
Très bien. Alors, il nous reste très peu de temps. Peut-être juste une dernière question en une minute. Donc, on a compris que le plastique parfait n'était pas prêt d'exister. Est-ce qu'il faut uniquement compter là-dessus pour résoudre le problème du plastique ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres messages à faire passer ?
En aucun cas, les matériaux biosourcés biodégradables sont faits pour remplacer tous les plastiques. En aucun cas. Il faut d'abord réduire considérablement la quantité de plastique qui est actuellement mise sur le marché. Peut-être essayer de hiérarchiser. Alors, je sais que ça fait toujours un peu peur, mais il y a des matériaux qui sont moins, qui sont plus indispensables que d'autres. Voilà, je ne vais pas dire plus utiles parce que je sais que je vais froisser, mais en tous les cas, moins indispensables que d'autres. Hein. Et ensuite, il faut ici penser à la réutilisation. Ça, c'est important. Et donc, il y a vraiment une hiérarchie les biodégradables font partie des solutions, mais ne sont pas la solution unique.
Un grand merci à vous. Et donc, on vous le rappelle à tous, sur la plage, courez quand même après votre sac biodégradable. C'est important. Merci beaucoup, Emmanuel. Et revenez du coup quand
merci
vous voulez.
Merci à vous.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, Aline, tu nous emmènes au pôle Chimie Ballard.
Oui, tout à fait. Direction le laboratoire de mesures physiques et plus précisément la plateforme RMN pour résonance magnétique nucléaire. Et c'est Aurélien Lebrun, ingénieur d'études sur la plateforme, qui nous présente ses spectromètres et nous explique comment exciter les noyaux pour les besoins de la recherche.
Oui, donc je suis Aurélien Lebrun, je suis ingénieur d'études sur la plateforme RMN du laboratoire de mesures physiques, qui est une plateforme technologique de l'Université de Montpellier. Et on est en soutien à la recherche pour tout ce qui est chimie et biochimie au niveau de l'université.
Et alors RMN, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça veut dire résonance magnétique nucléaire. Donc il y a, le côté nucléaire, ce n'est pas les centrales nucléaires comme on peut le voir à la télé. C'est juste qu'en fait, on va travailler sur les noyaux. Donc la RMN, c'est résonance. On va aller exciter un noyau particulier. Magnétique, ces noyaux sont considérés comme des petits aimants dans un champ magnétique. Donc on va les perturber pour récupérer un signal derrière. Et donc nucléaire, voilà, on va travailler sur le noyau. Donc ça peut être l'hydrogène, le carbone, l'oxygène, l'azote, différents noyaux possibles en chimie.
Donc là, on est dans une espèce de grand hangar. Vous pouvez nous décrire cette salle et à quoi servent toutes ces... Je décris toutes ces espèces de bonbonnes qu'on peut voir.
Donc ce sont des grosses machines, en effet, comme vous pouvez voir. Ça ressemble un petit peu à l'IRM que vous pouvez croiser à l'hôpital. Où, dans ce cas-là, les aimants sont à l'horizontale. Et ben là, on travaille avec des aimants qui sont verticaux. Au lieu de mettre une personne dans l'aimant, on va mettre un petit tube qui fait quelques millimètres de diamètre. Et on va travailler vraiment sur l'échantillon, sur l'atome. Contrairement à l'hôpital où on va travailler sur le corps humain plus particulièrement et sur des zones spécifiques. Donc là on est dans un hall qui contient 7 aimants qui font de la RMN du liquide et une autre partie qui fait de la RMN du solide qui concerne une autre plateforme. Et donc là on est vraiment sur un côté recherche, donc on va travailler principalement avec des chimistes qui vont synthétiser leurs produits et nous on va être en soutien pour caractériser ces échantillons, pour savoir s'ils ont bien fabriqué le bon produit ou s'ils n'ont pas fabriqué autre chose. C'est quand même un peu une recette de cuisine, savoir si la recette a bien mené au bon plat qu'on voulait ou si ça a fait quelque chose d'autre. Donc on va intervenir à ce niveau-là. On peut aussi intervenir à une autre échelle pour les gens qui travaillent par exemple dans le milieu naturel. On travaille notamment avec le CIRAD et l'INRAD de temps en temps, où eux travaillent particulièrement sur des extraits de plantes, des extraits de café par exemple. Ils isolent des molécules et nous les font parvenir ensuite pour qu'on identifie des nouvelles molécules. Donc là, c'est super intéressant, on est vraiment dans la recherche et ça fait toujours plaisir de trouver des nouvelles structures qui n'ont jamais été décrites dans la littérature. Et donc la RMN sert à ça. Il y a quelques semaines, vous avez fait une interview de la plateforme Symbio 3 et d'une plateforme qui faisait la spectrométrie de masse. Et bien la RMN vient en complément de ces techniques-là, de ces plateformes-là. La spectrométrie de masse, par exemple, nous permet d'avoir une idée de la masse de la molécule, la composition atomique, savoir combien il y a de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. Et bien nous, la RMN, on est capable de savoir à côté comment ils s'emboîtent les unes avec les autres pour avoir une structure en trois dimensions. Et ensuite, ces structures permettent plus tard éventuellement de fabriquer des nouveaux médicaments dans le milieu pharmaceutique ou de fabriquer des nouveaux polymères résistants dans certaines conditions. Donc on touche un peu à tout.
Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez un appareil qui était particulier, il n'y en a que trois en France. C'est Est-ce ça. Qu'on peut aller le voir ?
Alors il est assez unique, c'est un appareil qui est équipé dans ce qu'on appelle une cryosonde à l'hélium. Donc en fait, on a un bloc à côté de l'aimant qui sert à refroidir la sonde de mesure. Donc en fait, en RMN, on envoie ce qu'on appelle des impulsions radiofréquences pour aller exciter un noyau particulier. C'est un petit peu quand vous écoutez la radio, vous allez vous mettre sur une fréquence particulière pour écouter une radio que vous voulez écouter. Et bien en RMN, c'est pareil. Si on veut écouter le proton, on va se mettre à une certaine fréquence. Si on veut écouter énergie, qui est par exemple le carbone, ça va être une autre fréquence. Et bien là, on doit faire pareil. Et quand on écoute le signal, et ben parfois, on peut avoir des parasites. Le son n'est pas de bonne qualité, sur une radio par exemple. Et bien avec ce système de cryosonde, on va éliminer tous ces parasites pour récupérer un signal pur, donc avec le maximum d'intensité qu'on peut avoir. Et donc ça nous permet d'avoir une sensibilité fortement accrue. Et donc par rapport à des analyses qu'on fait d'habitude qui peuvent durer par exemple 4-5 heures sur un appareil normal, avec une sonde normale, on est capable de faire des analyses en 20-30 minutes.
Et alors là, je décris un peu sur le bloc dont vous avez parlé. Il y a plein de tout petits tubes assez fins. Est-ce que c'est quoi ? C'est là qu'on met les échantillons ?
Voilà, donc c'est des petits tubes qui font à peu près 7 pouces, donc 7-8 pouces. Donc là, on parle à l'échelle américaine. 1 demi-centimètre de largeur. On va mettre soluiser l'échantillon du chimiste dans un solvant de terré. Et ensuite, on va positionner ces tubes dans ce qu'on appelle des spinners, des petites bobines qui vont venir ensuite se mettre dans l'aimant. Donc on a un système de passeur d'échantillons qui va aspirer le tube et le transporter jusqu'en haut de l'aimant. Et une fois en haut de l'aimant, il va descendre en plein milieu de l'aimant, là où a lieu le champ magnétique, pour ensuite effectuer les mesures en RMN.
Et la lecture des résultats, vous la faites comment ?
Donc sur un ordinateur. Donc, notre travail consiste principalement à retraiter et à lancer des analyses depuis un ordinateur. Donc on n'est pas en contact direct des produits. En général, ce sont les chimistes qui nous fournissent les échantillons. Et donc la deuxième partie de notre travail, donc, du coup, c'est de retraiter tous ces fichiers-là et interpréter les données. On est en soutien à la recherche, donc notre travail donc, c'est de faire des analyses pour les chimistes. Donc il y a une partie des chimistes qui vont interpréter eux-mêmes leurs données sur des structures de molécules qui sont plutôt faciles. Et puis quand ils rencontrent quelques difficultés ou que la structure devient complexe, on intervient à ce niveau-là pour interpréter, leur valider la structure ou non. Et si ce n'est pas la bonne structure, essayer de leur trouver la bonne structure.
Et j'accueille maintenant notre invité des trois dernières minutes. Et cette semaine, c'est Kelly Beria, chargée de com innovation à l'Université de Montpellier, qui nous présente la cérémonie de remise des prix de l'innovation de l'Université de Montpellier. Ça fait beaucoup d'universités. Bonjour Kelly.
Bonjour Lucie, merci de me recevoir.
Et bienvenue dans Allume la science. Alors, ces trophées vont être remis à l'occasion de l'Afterwork Innovation. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Depuis quand est-ce qu'il existe?
Bien sûr. L'Afterwork de l'innovation existe depuis 2019. Mais c'est la première année que l'afterwork va avoir lieu sous ce format-là. Jusqu'à présent, c'était seulement un prix de l'innovation, donc ce qui est déjà très bien. 5 lauréats remportaient un prix au terme de la cérémonie, donc des lauréats qui font partie des 5 pôles de recherche de l'université. Cette année, donc il n'y aura pas 5, mais 6 lauréats. Il y aura un prix coup de cœur. Mais en plus de ça, on va proposer, bien avant l'événement et après l'événement, donc le prix de l'innovation, la possibilité d'échanger avec des experts en innovation. Ce qui est chouette, c'est que du coup, qu'on soit chercheur, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un doctorant, voilà, si on a simplement envie de faire un premier pas dans l'innovation, qu'on ne sait pas comment s'y prendre, et ben voilà, les experts seront réunis là, vraiment expressément, durant cet événement. Donc c'est l'occasion de faire un premier pas dans ce domaine-là et c'est la première fois qu'on fait ça sous ce format-là. Donc ça fait depuis 2019, mais c'est un peu aussi la première fois cette année.
Alors c'est quoi l'intérêt pour l'université d'organiser ce genre d'événement? Est-ce que ça renforce le lien université-entreprise par exemple?
Oui, tout à fait. Donc on a la chance à Montpellier en fait d'être une terre d'innovation depuis un petit moment déjà. On est aussi également référencé mondialement sur l'incubation. On est une grosse terre d'incubation à l'université, enfin à Montpellier de manière générale. Donc ça va en lien en fait avec ce qu'on est déjà, mais en même temps c'est une initiative supplémentaire, c'est-à-dire que nous à l'université on a un réseau, on a des centres de recherche qui travaillent avec nous, on a aussi des start-up qui sont nées aussi du travail des laboratoires de recherche et il y a quelques années on a été labellisé programme d'excellence ICIT et depuis en fait on travaille avec un ensemble de partenaires qui ont la volonté de créer le lien entre les laboratoires de recherche et les acteurs du monde socio-économique. Des fois, on a du mal à s'imaginer que les laboratoires de recherche proposent de vrais produits qui vont demain être dans nos mains. Et là, l'idée, c'est de se dire, les entreprises ont besoin de quoi et qu'est-ce que nous, on peut faire scientifique dans le but de les aider. Donc, l'afterwork, vraiment, a ce but-là, de faire rencontrer les entreprises et les chercheurs et de créer vraiment les produits qui demain arriveront entre nos mains.
Alors, ces trophées, donc, on imagine qu'ils vont être mis par un jury. Le jury, il est composé de qui?
Alors, le jury est composé un peu de plein de profils différents. Donc, on a des membres de la recherche, des membres du monde socio-économique. Mais globalement, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'université. On a même aussi une personne qui a été prix de l'innovation, qui aujourd'hui fait partie du jury. On a aussi des experts dans la valorisation aussi, parce que l'intérêt, c'est de voir est-ce que le projet innovant a moyen d'être valorisé, sous quelle forme. Donc, c'est important d'avoir des profils différents. Donc, il y a un jury d'une dizaine à une quinzaine de personnes avec des profils variés, quoi, tout simplement.
Alors, on va pas spoiler l'édition à venir, mais est-ce que tu aurais un ou deux exemples d'innovations récompensées ces dernières années à nous donner?
J'en ai même trois, si vous voulez.
Super.
Alors, trois profils différents.
Trois ans, pas longtemps. Alors,
promis,
on y va.
Ça va être très court. Donc, on a une jeune femme qui s'appelle Magali J.S., qui, elle, a créé un aliment afin de lutter contre la malnutrition, parce qu'on sait que c'est un fléau, la malnutrition. Donc, elle, son but, c'était de créer un aliment qui apporte le plus de protéines, le plus de fibres, qui soit le plus intéressant pour ces populations-là qui n'ont pas la chance de bien se nourrir. Donc, elle, c'est son projet innovant et elle a été récompensée pour ça. On a aussi Sophie Spring qui avait envie de sensibiliser à la création d'entreprises et aux enjeux RSE. Donc, elle a créé une application sous forme de jeu qui a pour but de guider, en fait, les futurs entrepreneurs sur ces sujets-là. Et on a aussi Vincent Creuse qui s'est dit, c'est un constat, les robots sous-marins ne sont pas assez performants lorsqu'on veut explorer un petit peu les fonds sous-marins. Donc, lui, il a eu envie de créer des robots encore plus performant, et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Et l'année dernière, il a été récompensé prix de l'innovation.
Vincent Creuse, qu'on a reçu ici même. Merci beaucoup, Kelly, pour Merci cette présentation.
Vous.
Et donc, pour ceux que ça intéresse, on publiera les résultats sur le site de l'université.
Oui, bien sûr. J'imagine. Les lauréats seront connus très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à vous et venez nous rejoindre le 28 juin. Bah, ce sera au Jardin des Plantes. C'est sur inscription, c'est gratuit, donc n'hésitez pas.
Super. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Naomi Charmetant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.